Bonjour et bienvenue à Échangeurs Turcotte, une émission où on discute d'enjeux importants pour la région, particulièrement pour la MRC Maria Chapdelaine. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet important, on en entend parler beaucoup. On va essayer de démystifier tout ça, on va parler d'immigration. Et avec moi, qui de mieux pour en parler que Julie Gauthier. Bonjour Julie.
Bonjour.
Bonjour. Directrice générale de Porte ouverte sur le lac. Et on est chanceux car on a aussi quelqu'un qui vient de l'immigration, qui est installé dans notre région depuis quelques années. Lorena Ledesma,
bonjour.
Je ne l'ai pas prononcé avec l'accent,
mais
qui est immigrante et qui est aussi intervenante au Centre plein vie à Normandin. C'est ça? Bon, bonjour à vous. Commençons. T'sais, on entend beaucoup parler d'immigration. En ce moment, c'est aussi beaucoup lié avec la crise de la main-d'œuvre, parce qu'on sait qu'on est en pénurie de main-d'œuvre un peu partout. Puis une des solutions dont on parle le plus, c'est l'immigration. Ça semble simple dit comme ça, mais on va réaliser que c'est peut-être un peu plus complexe. C'est quoi, Julie, le portrait des personnes qui immigrent au Saguenay-Lac-Saint-Jean? Parce que ça doit être différent. J'imagine qu'ils viennent dans la région, ils cherchent autre chose. C'est quoi le portrait des gens qu'on reçoit?
Bien, le portrait, c'est qu'au Québec, on a quand même une législation, comment je pourrais dire, une gouvernance qui est différente d'ailleurs au pays. Dans le fond, au Québec, on est la seule province à avoir un seuil d'immigration, avoir vraiment une structure organisationnelle qui permet vraiment l'accueil et l'intégration des personnes immigrantes sur le territoire, qui s'appelle le ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration, abréviation qu'on appelle MIFI.
OK. Bon. Et puis quand on entend parler d'immigrants, là, on entend plein de choses, OK? Les immigrants temporaires, les immigrants permanents, les sans-papiers, les demandeurs d'asile, les immigrants politiques ou... pas les immigrants politiques, mais les réfugiés politiques, climatiques. Là, est-ce que tu peux nous démêler un peu tout ça? Parce que ça en fait beaucoup, là.
Bien, il y a deux grandes catégories, Lorena. Il y a les permis, dans le fond, il y a les temporaires et il y a les permanents. Okay. Dans les temporaires, dans le fond, il y a différents statuts. Il y a des statuts étudiants internationaux, il y a des statuts permis de travail ouvert, permis de travail fermé. On a aussi les réfugiés qui deviennent...
Permis de travail fermé, excuse-moi, je t'arrête
pour être sûr.
Permis de travail fermé, ça veut dire qu'ils viennent... Puis à telle date, c'est terminé. Puis ouvert, c'est qu'ils viennent, puis ça peut s'étendre. Ils ne savent pas quand est-ce qu'ils repartent.
Les deux, c'est des périodes déterminées.
OK.
Puis la différence entre les deux, c'est que permis ouvert, c'est qu'ils vont pouvoir travailler pour différents employeurs. Mais permis fermé, c'est qu'ils sont mandatés contractuels pour viennent travailler pour un employeur spécifique au départ, là, à leur arrivée. Là,
c'est déjà planifié. Là,
c'est déjà planifié, puis c'est vraiment contractuel avec un employeur.
OK. Mais excuse, mais c'était pas signé à Zofa. J'étais dans le champ.
Fait que permis ouvert, ça permet vraiment une latitude là, à l'individu, à la personne de changer d'emploi comme il le désire. Permis fermé, bien, ça le restreint là, à un seul employeur.
OK. Bon. C'est pour ça. Puis,
pour le Lac-Saint-Jean, ça représente environ 75 % des individus qui arrivent sur le territoire avec des permis, avec des statuts temporaires fermés.
OK.
Bon. De notre clientèle. Ça veut peut-être dire qu'il y a d'autres candidats qui arrivent sur le territoire qui ne passent pas par la porte ouverte sur le lac, mais le gros bassin, on a quand même une belle notoriété sur le territoire,
absolument.
Qui fait que ça représente environ 75 % des nouveaux arrivants.
Fait que ça, c'est pour les temporaires. Quand on parle de permanents, c'est que là, ils ont le droit d'habiter ici comme ils veulent aussi longtemps, puis ils pourront éventuellement demander la citoyenneté canadienne.
Oui, c'est ça. Bien, il y a différentes façons d'arriver directement ici avec une résidence permanente. Soit d'être parrainé pour un regroupement familial, soit au niveau économique, parce que le gouvernement a décelé certains statuts, soit de métiers catégorisés, puis aussi au niveau humanitaire.
OK.
Fait que il y a ces trois critères-là que le gouvernement peut légiférer sur le statut permanent.
D'accord. OK. Toi, Lorena, à un moment, tu vis au Mexique, et puis à un moment donné, tu décides de... Comment ça se passe? Parce que dans le processus, là, toi-même, au départ, tu ne devais pas être au courant de tous ces statuts-là. Puis comment on découvre ça? Est-ce que ça a l'air gros au départ? Raconte-moi ton histoire.
Mais moi, mon histoire, c'est pas vraiment... Je suis au Mexique et je fais partie d'une entreprise familiale. Puis d'un coup, je dis... Je veux aller ailleurs, puis j'ai choisi Québec.
OK.
Juste de même.
Sans savoir
que parler français, rien.
Ah oui, OK.
Donc, c'était carrément mon désir d'aventure. Donc, je suis arrivée ici. C'était vraiment hot et tout. J'ai aimé la région. Mais pendant ça, mon papa décède, donc il n'avait pas vraiment quelque chose qui m'attachait comme au Mexique. Puis maintenant, c'était comme pff, porte ouverte, carte blanche, là. Et je n'avais pas besoin de rester dans l'entreprise familiale. Donc, j'ai dit, bah, maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Je peux continuer ici, je peux y aller à l'Argentine étudier, que c'était aussi de mes projets. Mais je tombe en amour avec la région.
Ah, ça, c'est dur.
C'est
ça,
toute ça la arrache. Nature, tous les paysages, et l'entraide. Puis aussi, j'ai connu, et après ça, à mon mari.
Ah oui?
Donc, c'est comme le dernier pouce que j'ai dit, OK, d'abord, je reste ici.
Mais quand là, on commence le processus d'immigration, là, puis là, on arrive, puis on fait, mon Dieu, tu sais, je veux dire, ça doit avoir l'air d'une montagne, là.
Oui, c'était vraiment compliqué, et parce que pour nous autres, c'était réunification familiale.
Okay.
Donc, j'ai commencé le processus, on commençait le processus toute seule, et c'était de rentrer dans les pages de le gouvernement, puis télécharger toutes les guides, faire tout ça, puis faire toute la paperasse, puis tout, là.
Fait qu'on... Ce que je comprends, c'est que c'est complexe, puis on a besoin
ouais.
d'aide.
Ouais.
C'est un peu là que Porte ouverte sur le lac arrive. Est-ce que c'est ça?
Au niveau des statuts, dans ouais. le fond, nous, on est un service d'accueil, d'accompagnement des personnes qui sont sur le territoire. Dans le fond, on n'est pas consultant en immigration. Oui, okay. on a une certaine spécialité parce qu'on travaille avec des personnes grandes, fait qu'on connaît les statuts. On doit connaître aussi l'admissibilité parce qu'il y a certains services qui sont... admissibles, c'est tout dépendamment d'un statut à l'autre, tout dépendamment, ils sont peut-être admissibles à nos services ou non, fait que c'est important de connaître les statuts, sauf qu'on n'est pas des consultants en immigration, puis habituellement, bien, c'est ça, ça passe soit par le gouvernement du Canada pour les différents statuts ou la plateforme Arima, là, les gens, les personnes migrantes doivent s'inscrire à Arima, puis avoir, il y a aussi le processus d'accompagnement Québec qui peut les aider ouais. pour vraiment avoir une résidence permanente ou avoir un statut différent au Canada. Fait que le processus d'immigration attraction, porte ouverte sur le lac, on n'est pas là. Nous, on est vraiment, quand les gens arrivent sur le territoire pour faire des activités de réseautage, pour connaître la paperasse administrative pour pouvoir ouvrir un compte de banque, oui, téléphone, oui. numéro de NAS, mais tout ce qui est vraiment démarche administrative, on peut donner des référencements, remettre des formulaires, mais tu sais, on ne peut pas accompagner. Ça prend quand même des consultants en immigration agréés, oui. comme un comptable agréé, pour pouvoir donner des conseils en immigration.
Donc, les gens pourraient quand même communiquer avec vous pour
dire, les rediriger vers les bonnes ouais,
pour être ouais. bien redirigés. Puis, en même temps, ça permet aux personnes de comprendre qu'une fois qu'ils vont être sur le territoire, ils ne seront pas laissés à eux-mêmes. Ben, c'est un peu ça, vous,
oui.
votre rôle.
Il faut qu'ils viennent nous voir.
Oui, oui, c'est ça. Il faut qu'ils pensent par...
Il faut qu'ils viennent nous voir. Il faut qu'ils connaissent à notre porte. Il faut qu'ils, ouais. qu'ils viennent demander de l'aide, du besoin. C'est sûr que présentement, on a une arrivée fulgurante là, depuis 2021. On a eu vraiment, le gouvernement a autorisé un seuil d'immigration plus grand.
Ouais.
Fait que c'est sûr que par rapport aux ressources pour aux besoins du territoire, par rapport aux attentes de chaque individu, ben, on n'est pas capable de répondre à tous les besoins.
Okay.
Fait qu'on fait notre possible avec les ressources disponibles. Mais tu sais, auparavant, en 2018, on accueillait environ 60 individus. Puis cette année, on va atteindre le 500. Fait que, puis on n'a pas quintuplé le nombre de ressources territoires. On n'a pas quintuplé on est restreint au niveau budgétaire aussi, au niveau des ministères. Fait qu'on fait ce qu'on peut avec les ressources disponibles.
OK. Toi, Lorena, est-ce que tu as fait affaire avec Porte ouverte sur le lac? Quand est-ce qu'ils sont arrivés dans ton parcours?
Ben non, en réalité...
Quand ils sont parrainés habituellement,
oui,
quand il y a un entourage, quand c'est un regroupement familial, souvent, ils n'ont pas nécessairement besoin, parce qu'il y a déjà un ancrage qui est fait,
un réseau regroupement familial, ça veut dire qu'il y a déjà
quelqu'un qui connaît un peu le processus, soit le marché du travail, ton conjoint connaît le marché du travail,
ouais.
connaît les démarches, mais elle n'arrête plus très bien aussi. Quand, on ne fait pas une sélection, là, pas parce que tu viens d'un regroupement familial que tu n'as pas accès à nos services, mais si elle avait besoin, elle aurait pu cogner à notre porte, c'est certain.
OK. Wow. Là, on entend beaucoup parler des communautés sud-américaines, Amérique centrale, mais je pense qu'il y a des gens aussi du Maghreb qui viennent. C'est quoi le portrait? Les gens viennent d'où?
On accueille à Porte ouverte sur le lac, là. Ça, c'est,
ouais.
c'est notre clientèle. C'est environ 27 pays différents depuis l'année 2022. Le gros bassin est vraiment beaucoup sur le Mexique,
oui.
Maroc, les pays francophones, la France. Philippines, beaucoup de Philippins. L'Europe aussi, mais surtout des pays de l'Afrique, Maroc, Côte d'Ivoire, Cameroun.
Comme on est, bon, je dirais pas qu'on est mauvais en anglais, mais la majorité des gens sont beaucoup plus à l'aise avec le français. Est-ce que ça, c'est un enjeu dans les pays de provenance? Là? Quelqu'un qui ne parle pas du tout français, il n'est pas écarté. Tu sais, il peut venir quand même ici, mais... C'est un obstacle.
C'est un défi. Ouais. Même pour quelqu'un qui parle français, quelqu'un qui vient du Maroc, l'accent québécois, l'accent du lac Saint-Jean, est... le lexique québécois est complexe, même au niveau en entreprise.
Oui.
Écoute, dans une shop de soudure, on utilise beaucoup des mots anglophones, même nous, du Durex, des termes qui ne sont pas nécessairement spécifiques à la langue française, mais plus à la culture québécoise, ce qui fait que la langue française, déjà, pour peu importe là, le pays d'origine, la personne a quand même un défi là, au niveau du langage.
Mm-hmm. Toi, est-ce que tu parlais français avant d'arriver ici? Pas du tout?
Du tout.
Et là, ça fait quoi, 4 ans que tu disais à peu près?
Ouais, ben, c'était comme la première année que j'étais ici, 2020. Et je ne parlais pas français, je parlais avec mon conjoint en anglais.
OK.
Mais ça, c'était une grosse barrière, là, parce que pour commencer, je n'avais pas permis de travail. Puis c'était la pandémie.
Ouais.
Donc, j'avais pas vraiment comme autre chance de pratiquer, puis je sortais pas de la maison, puis je restais tout le temps là-dedans, puis j'avais pas personne que je connaissais, j'avais pas d'amis, j'avais rien, puis je pouvais pas, mettons, sortir à l'épicerie puis parler avec le monde, et ça me gênait beaucoup, donc ça a vraiment affecté beaucoup mon première année, là.
Et là, t'as suivi des cours? Comment ça s'est fonctionné, ta francisation?
Non, et je parlais avec mon mari, puis il dit, ça y est, on va commencer à parler français parce que je suis plus capable.
Puis là, ça a enlevé beaucoup de barrières quand t'as
ben, je commençais à pratiquer le français, puis tout. Surtout que lui a un enfant.
Okay.
Donc, je pratiquais plus avec lui, puis parler avec lui, il est magnifique, là. Il me montrait des mots, puis tout ça. Donc, c'était... Surtout sans français même, mais c'est juste que j'ai commencé à travailler dans mon actuel travail, là, que je pratiquais comme il faut mon français, puis j'ai appris comme les mots québécois.
Ah, oh, ben là, tu as dit comme pitoute, je t'ai entendu ça, pitoute.
Oui, c'est ça! Ben,
là, pitoute, là.
Oui, il y a beaucoup de marches de montée.
Il y a beaucoup d'organismes qui offrent des cours de francisation. Oui. Il y a le tracé à Saint-Félicien, il y a les centres scolaires. Puis il y a même de l'offre là, pour les services aux entreprises qui voudraient rendre ça accessible là, à leurs travailleurs. Il y a des programmes là, spécifiques là, pour la francisation. Le gouvernement a vraiment mis une emphase dans son mandat dans cette année. Là, vraiment, la francisation était une de ces.
Je pense que pour l'intégration, c'est un facteur majeur.
Oui, c'est certain.
Tu l'as senti. Penses-tu que tu aurais pu trouver un emploi ou être aussi heureuse que tu l'es maintenant si tu n'avais pas réussi à parler français?
Ben non.
Non?
Non, ça, c'était une grosse démarcation.
Oui,
ça? C'était comme
une
grosse marche à monter.
Une grosse marche à monter, mais heureusement, je n'étais pas toute seule.
Ouais.
Donc, dans mon travail, ils sont vraiment accueillants, puis ils me montrent des expressions, puis des anecdotes, puis tout ça, qui ah, OK, je comprends, là, puis je comprends même le transfond de chaque mot, puis ah, j'adore.
Mais l'intégration d'une personne issue de l'immigration, c'est son intégration à elle. Tout son mérite revient à Lorena.
Absolument.
Puis elle s'implique beaucoup dans la communauté. C'est un bel exemple d'implication. Puis, tu sais, oui, l'intégration, on est un organisme communautaire qui aide l'intégration, mais l'individu doit de sa part être réciproque dans sa démarche. Il doit aussi être activement autonome et
être dans l'action.
On ne peut pas aller les chercher à la maison. Il faut qu'ils viennent nous voir. Puis, Lorena est un bon exemple d'implication dans son milieu.
Non, même pour un employeur, j'imagine, tu sais, il peut faire un bout du chemin, mais il ne peut pas, il peut pas tout faire.
Là. Non, c'est ça.
Il a besoin de quelqu'un de fonctionnel aussi là, à l'intérieur de son entreprise.
Oui.
Wow. Pourquoi, toi, tu es venu ici par désir d'exploration, de découverte, ça. J'ai fait la même chose à un plus jeune âge. Mais ce n'est pas tout le monde. Pourquoi les gens décident d'immigrer en général?
Bien, on a fait plusieurs recherches, là. Ouais. Je n'ai pas exactement les sources là, pour vous donner les sources, mais vous pourriez aller voir sur notre site Facebook ou sur notre page, notre site web. On a beaucoup de recherches là, qui ont été faites, là, soit par notre chargé de projet, Jeanne Tremblay, ou soit par différentes firmes, là, maîtrises ou projets là, qui montrent que un des facteurs favorables à l'attraction ou pourquoi la personne immigrante veut, c'est pour changer sa qualité de vie. Un qui va la motiver, c'est vraiment au départ, c'est l'emploi. Oui, c'est vrai que le Canada a vraiment une belle notoriété au niveau des paysages, la qualité oui. de vie. Souvent, les gens, là, quand ils décident de venir rester au Canada, c'est vraiment comme le paradis. Là. C'est vraiment la terre promise. Il fait bon vivre, c'est calme. Puis, mais ce qui va vraiment définir là, la première année, c'est vraiment l'emploi. S'il est heureux à l'emploi, parce qu'on passe quasiment 8 heures par jour à l'emploi. Mmh. Puis par la suite, ce qui va faire que la personne va rester, c'est après ça, là, c'est la qualité de vie, le réseautage, l'ancrage. Fait que c'est ce qui est vraiment le facteur favorable. Il y a aussi d'autres facteurs. Si on parle un peu de la régionalisation, migration intersectorielle, bien, au niveau du capital physique, c'est sûr que là, présentement, on est en pénurie de logement, mais l'acquisition d'une propriété ou d'une terre où c'est quand même plus accessible, en tout cas, que certains pays. Puis, il y a aussi l'accès à des services, là, comme services de garde, institutions d'enseignement, les écoles pour les enfants. Ça rend quand même le territoire très accueillant, même si présentement, on est en pénurie de places en garderie.
Oui,
mais
oui.
Des fois, c'est un petit peu contradictoire, mais c'est ça. Il faut travailler avec le milieu là, pour pouvoir mettre justement là, la disponibilité des logements et des garderies pour les familles, pour avoir encore plus d'attractivité.
Mais ça va faire la différence aussi pour, par exemple, quelqu'un qui vient de manière temporaire et dire « Ah, j'aimerais peut-être ça venir m'installer avec ma famille, mais là, si je veux m'installer avec ma famille, là, ça prend plus que quand je viens tout seul. »
Oh oui, c'est sûr que l'accompagnement est différent. On le voit, là, quand c'est des familles, le processus est beaucoup plus ardu, puis beaucoup plus long, plus difficile. Les gens, quand des fois, tu arrives seul, tu as moins de responsabilité. Bien, pas une responsabilité, mais tu peux t'arranger. Tu sais, quand tu viens avec des enfants, bien là, il y a cette pression-là, cette charge-là, ce stress-là. Qui
rentrent
en ligne de compte.
Oui, oui, oui. Même s'ils vont être meilleurs que nous, les adultes, pour apprendre la langue, c'est quand même un défi pour eux. Là.
C'est très impressionnant à quel point les enfants sont des éponges. On a une famille ukrainienne qui sont arrivées dernièrement, là, puis le petit bonhomme a 6 ans, puis il se débrouille comme un poisson dans l'eau. Mais c'est plus difficile là, pour des enfants un peu plus âgés, là, adolescentes, c'est plus difficile. Puis là, dès que tu prends un peu plus d'âge, des fois, c'est la gêne, c'est le blocage. Souvent, les enfants ont cette naïveté-là de s'ouvrir à l'autre, c'est souvent ça.
Ils n'ont pas peur de se tromper.
Lorena le disait tout à l'heure, souvent à l'épicerie, c'est la gêne. Mm-hmm. C'est ça qui bloque l'apprentissage.
Et au niveau de la langue, est-ce que les gens sont curieux aussi, des fois, d'apprendre l'espagnol ou de te poser la question, t'sais, tu leur demandes, bon, ça se dit comment en français?
Ben, oui.
est-ce que la curiosité est réciproque? Est-ce que tu le sens, ça, que les gens sont intéressés aussi par la culture?
Oui, en fait, je fais partie des comités dans la ville de Normandie, puis on se fait demander beaucoup d'avoir des cours d'espagnol pour pouvoir échanger, puis pouvoir enrichir comme cette relation là, qu'ils ont avec les personnes. Ils ont une migration, puis tout là.
Ouais.
Donc, oui. Puis, des fois, dans le travail aussi, puis comment ça se dit? Puis, comment est-ce qu'il fait? Puis, c'est quoi qu'il s'appelle? Puis, comment il s'appelle? Puis, c'est hot.
Puis, je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression que des fois, la perception que les gens ont de l'immigration, c'est qu'on accueille des gens, mais ces gens-là ont aussi quelque chose à nous apporter. Est-ce que je me trompe?
Oui, bien souvent, les gens vont associer l'immigration comme des gens vulnérables ou des gens qui sont à la retraite, qui sont vraiment mal pris. Mais souvent, c'est des gens qui sont très éduqués, qui ont quand même une situation financière quand même très agréable. La vulnérabilité rentre dans la première année, dans les 3 premiers mois, parce qu'ils perdent un peu leur repère. C'est là qu'ils deviennent un peu vulnérables, parce qu'ils ne connaissent pas nécessairement qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais. Imaginez-vous, M. Turcotte, vous allez à Paris ou vous allez en Afrique, puis vous vous blessez. Vous allez où, à l'hôpital? Aucune idée? Hein? Payer comment? Ben, c'est ça. Fait que c'est comme les premiers mois avant de se créer des ancrages ou des références à qui demander. C'est souvent ces premiers mois-là, mais après ça, les gens, c'est des gens très éduqués avec des qualifications très riches là, pour notre société. Ça apporte vraiment on a quand même des valeurs québécoises, des valeurs propres à chaque individu, mais je pense que d'échanger c'est comme un peu de s'ouvrir à l'autre sans nécessairement être d'accord avec les valeurs de l'autre, mais d'aller à la rencontre, d'écouter, d'être compréhensif. Ouais. C'est comme si on discute ensemble de politique, on ne sera peut-être jamais d'accord ou on discute ensemble, mais on est capable d'avoir une discussion, de se parler, puis de s'écouter, puis de se comprendre.
Ce que je comprends, Lorena, c'est que tu es beaucoup impliquée dans la communauté à Normandin. C'est un choix que tu as fait. Puis tu t'impliques là à tout vent ou tu as des plus avec genre les gens issus de l'immigration? Ou comment, c'est quoi tes implications que tu fais?
Bien, pour commencer, j'ai découvert avec les bénévolats.
Oui.
On est une belle façon de créer mon intégration.
Oui.
Donc, les premières années que je ne travaillais pas, je fais du bénévolat à la bibliothèque. Okay. Donc, ça me donnait comme une raison de sortir de mon lit et de faire de quoi dans ma vie, là, tu sais, ouais. À part d'attendre la réponse du ministère.
Donc, c'est très long.
Oui, ouais, c'est ça. Donc, j'ai commencé par ça. Puis après ça, ils me sont invités à faire partie du comité consultatif de l'ORCI Culture Sport comme représentant des nouveaux arrivants à Normandie.
Okay.
Donc, je rentre là-dedans, puis avec la responsable, je commençais à travailler un petit peu pour dynamiser son politique d'accueil et établissement durable dans le territoire des nouveaux arrivants en Normandie.
Okay.
Donc, c'est là qu'on a commencé à travailler sur le local multiculturel en Normandie, faire des activités et recruter des personnes pour faire cette activité, dynamiser tout ça, pour créer un milieu d'inclusion, d'interculturalité, de
apprentissage, oui,
c'est
ça.
Mais que c'est important que soit la personne nouveau arrivante,
ouais.
qui accueille à les autres. Parce que quand tu arrives, puis tu connais pas vraiment l'endroit, puis tout ça, t'es tout le temps comme l'accueilli. C'est tout le temps comme lui qui arrive, là, mais que tu invites les autres, que les autres viennent, puis que c'est toi qui guide l'activité. Donc, ça renforce beaucoup la prise de pouvoir, l'estime de soi, le partage. Donc, c'est ça comme la vision qu'on a dans les locaux multiculturels.
Puis ça démontre aussi justement l'apport de l'immigration à Normandin. Je veux dire, là, ça amène de l'ouverture, ça amène des échanges. Parce que moi, j'ai longtemps occupé des étudiants étrangers qui me disaient « Vous êtes gentils, les Québécois, mais on dirait que ça finit à 5 heures. » Dans le sens que tant qu'ils étaient à l'école, ça allait, mais le soir, il n'y avait pas d'amis, il n'y avait pas justement de réseau. Fait que c'est ça qui est important aussi, là, de se créer une vie sociale.
Oui, c'est ça, parce que dans chaque activité, il y a de plus en plus, merci Dieu aussi, de plus en plus d'assistance de la population en général. Donc, quand le monde va à l'épicerie, par exemple, « Hey, salut, je t'ai vu dans cette activité-là. » Donc, ça déjeune un peu plus, puis ça te fait comme sentir partie de...
Oui, ça va avoir un impact aussi, même dans la communauté. Là. J'imagine, par exemple, que... si vous faites des activités, je ne sais pas, en lien avec la nourriture mexicaine, ouais, ben, l'épicerie va probablement être obligée de commander des affaires qu'elle n'a pas naturellement, mais ça va amener les gens à cuisiner, ça va créer une demande, ça va vous pouvoir métisser aussi, là, pourquoi pas faire une tourtière au piment fort. Non,
mais là, je pense que c'est ça, une des de plus belles opportunités qui offre l'interculturalité.
Oui.
C'est de chaque personne qui vient avec ses lunettes, avec comment il voit la réalité. Donc, une fois que tu le présentes, cette lunette-là, tu vas pouvoir découvrir qu'il a autre option de comment faire les choses. Donc, c'est ça qui enrichit l'espace.
Donc, toi, tu as choisi Normandin, c'est le fun, j'aime ça au moins. Mais c'est quoi nos facteurs d'attraction ici dans la région? On a parlé de l'emploi, mais tu sais, l'emploi en ce moment, il y en a partout. Donc, si on décide de venir au Lac-Saint-Jean, il y a d'autres choses aussi qui viennent nous allumer. C'est quoi que, tu sais, quand vous parlez aux gens qui veulent venir ou vous voulez aider, C'est quoi votre pitch de vente là, pour dire hey, allez à Saint-Thomas-du-Dîme, c'est fantastique, je sais pas.
Bien, l'attraction, c'est souvent les entreprises qui vont le faire ou les firmes de recrutement privées. Ça veut dire c'est vraiment de l'attraction. Nous, c'est quand les gens arrivent sur le territoire que c'est là qu'on les prend en charge.
Ouais.
Mais les facteurs peuvent être différents à chaque individu. Hein. Chaque parcours migratoire est différent. Ils vont avoir des obstacles chacun, chaque individu va avoir des obstacles différents. Fait que c'est difficile de dire, tu sais, chaque personnalité va... Mais c'est sûr qu'en gros, c'est l'emploi puis la qualité de vie, là, les grands espaces, puis la tranquillité.
Ouais.
C'est ce qu'ils recherchent c'est quand ils sont au Lac-Saint-Jean.
Ouais.
C'est sûr, s'ils recherchent du nightlife comme à Montréal, ils trouveront pas. Fait qu'ils vont être déçus.
Ouais, ouais.
Fait que souvent, c'est l'intérêt premier, là, des grands espaces, la vie tranquille, la vie familiale.
Oui, être capable aussi d'élever sa famille en sécurité.
Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le capital physique, là, d'avoir accès à une propriété qui est peut-être plus facile.
Pour un employeur qui décide d'embarquer là-dedans, de faire la promotion, d'aller chercher, pourquoi il prend ce chemin-là? Est-ce que... qu'est-ce qu'il y a à y gagner, lui? Tu sais, dans le sens, moi, je le vois, là, je pose la question naïvement, là. Tu sais, parce qu'il y en a qui doivent prendre d'autres avenues pour trouver des gens parce qu'ils ont besoin de main-d'œuvre. Mais c'est quoi l'avantage? Qu'est-ce qu'ils vont chercher dans l'immigration, ces employeurs-là?
Là, on dirait que c'est la solution. Moi, je pense qu'il faudrait leur poser la question. Mais ouais. Moi, ce que je leur conseillerais, c'est que c'est la façon, peut-être la comment je pourrais dire? Tu sais, il y a d'autres avenues. Tu sais, il y a des gens qui sont sur le territoire qui sont peut-être sans emploi, des personnes immigrantes qui sont sans emploi, des gens éloignés du marché du travail. Reconnaître aussi les acquis des gens qui sont déjà sur le territoire. Écoute, on en a des travailleurs étrangers qui arrivent sur le territoire, puis souvent, ils ne font pas nécessairement le métier qu'ils sont qualifiés ou qui ont espéré. Fait que, tu sais, d'aller dans cette avenue-là avant de peut-être aller en recrutement international. Mais en même temps, c'est une belle richesse là, d'aller.
Ben, moi, c'est mais pour je pense ça que
c'est,
une, ça,
c'est très coûteux pour une entreprise. Là,
ouais,
mais tu sais, je pense qu'il y a cette synergie-là, synergie-là qu'il faut créer aussi dans notre milieu. Il y a déjà des personnes grandes qui sont sur ce territoire, que peut-être leurs familles sont dans leur pays d'origine, qu'il faudrait peut-être rapatrier pour faire des réunifications familiales. Il y a peut-être cette avenue-là qui serait super intéressante pour justement aider les familles à venir s'installer. Fait qu'il y aurait une synergie à créer entre les entreprises pour pouvoir communiquer ensemble de leurs différents besoins, puis que ça pourrait répondre aux besoins des candidats. Nous, on répond vraiment aux besoins des candidats. Fait que c'est sûr que le besoin de l'entreprise, on ne le connaît pas tant que ça, mais... Moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'avenues là, sur le territoire qu'on devrait optimiser. Là.
Bien, juste à l'intérieur d'une entreprise, avoir des gens qui ont une vie, qui ont un vécu, qui ont une expérience, qui réfléchissent différemment, je pense que ça peut beaucoup nourrir le milieu de travail. Là.
Ah oui, c'est certain. Puis ils vont apporter une dimension. Écoute, on en a beaucoup qui sont des ingénieurs puis qui vont avoir une vision différente du Canada, parce qu'ils vont avoir appris dans leur pays d'origine, puis ils vont amener une belle expertise qu'on n'a peut-être pas ici. Là. Fait que c'est sûr que c'est un gain considérable pour les entreprises et pour le milieu. Là. C'est une belle richesse.
Je vous arrête. On prend une petite pause. On revient dans quelques minutes. Restez avec nous. C'est vraiment intéressant. À tout de suite.
Si j'ai dans mon entourage des gens qui viennent d'ailleurs, ben, j'ai ma belle-fille qui aime ça faire la popote. Mais j'ai pris ça bien dur au début quand la famille aimait mieux ses desserts que mes tartes au bleuet. Et finalement, l'ouverture sur la cuisine des différentes cultures, ça a tout changé pour moi. Au fond, c'est enrichissant d'apprendre des personnes différentes de nous. Puis mes desserts sont bien meilleurs à cette heure. Oh! Je suis prête pour le lécher de doucher!
On dit « don't feed the lady, Martine! »
La vraie télé, c'est la télé communautaire, c'est la télé autonome, la télé libre, parce qu'elle n'est pas contrôlée par des géants, elle n'est pas contrôlée par de la publicité, elle n'est pas contrôlée par du gros argent, elle est contrôlée par vos intérêts. Tu veux savoir qu'est-ce qui intéresse les gens d'une place en particulier? Tu veux savoir qu'est-ce qui se passe en ce moment à Ville-Marie, dans les Basses-Laurentides? Bien, il faut que tu regardes la télé de cette place-là, puis elle est disponible sur le web à cette heure. Deux clics, tu sais ce qui se passe. Tu sais, l'avenir, là, c'est de parler des vrais enjeux, des vraies valeurs, de ce qui nous touche vraiment. Il n'y a rien de mieux qu'un médium local pour le faire. C'est pour ça que les télécommunautaires autonomes font ce travail-là. Et puis, on parle souvent de codes d'écoute, puis tout ça. Un, les codes d'écoute sont assez bonnes. Puis deux, Le qualitatif, c'est important aussi. La qualité des gens qui regardent, c'est des gens intéressés, intéressants. Pourquoi? Parce qu'on regarde notre communauté. On peut passer à la TV et parler de nos enjeux. Là, on parle des vraies affaires. On parle pas juste des mosus de vedettes de chenoute de Montréal. Non! On parle de ce qui se passe chez toi.
Les bénévoles sont partout. Nos activités sportives, de loisirs et de plein air sont rendues possibles grâce au travail de bénévoles. Ici, les bénévoles vous permettent de faire du sport dans votre quartier. Ici, les bénévoles participent à la tenue d'événements locaux. Ici, les bénévoles assurent l'entretien et la signalisation des chemins de randonnée. Dans votre centre communautaire de loisirs, votre association sportive ou votre club de plein air, tout prend vie grâce aux bénévoles.
La série Agir pour l'avenir revient pour une deuxième saison avec des conférences, des reportages et des entrevues avec différents collaborateurs. Elle vise à mettre en valeur les organisations et les gens qui ont comme mission de protéger l'environnement. Produit en collaboration avec divers partenaires et avec la participation financière de la MRC de Maria Chapdelaine.
Merci d'être à l'écoute. Je suis toujours avec Julie Gauthier, directrice générale de Porte ouverte sur le lac, et Lorena Ledesma, immigrante et intervenante au Centre Pleine Vie à Normandin. On parle d'immigration. C'est quoi les défis? Parce qu'on en a parlé, il y a des obstacles. Bon, et, c'est quoi les principaux défis d'une personne qui veut immigrer?
C'est beaucoup... Présentement, c'est de trouver des logements.
Oui, ça, c'est logement, logements, ça,
les garderies. Les difficultés, bien souvent, ça va être le choc culturel, la langue. Ça peut être aussi la religion, les valeurs.
Oui,
ça,
oui. C'est quand des, tu des... parles de choc culturel, est-ce que c'est en lien avec la perte, en fait, de leur culture? Ou c'est quoi qui les choque dans tu sais, c'est-tu l'hiver? C'est-tu notre manière de vivre?
Je sais pas. Être loin de leur famille. Oui. Écoute, puis perdre vraiment là, toute la culture, la nourriture. C'est un changement radical là, de tes habitudes de vie là, qui changent tout au tout. Souvent, ils arrivent ici avec deux valises. On n'a presque pas de transport en commun. À Mexico, il y en a du transport en commun.
Il y en a du monde.
C'est facile de déplacer sans ici. Tout est loin. Les services aussi, les services de proximité. Oui, on a quand même des bonnes institutions, des bons organismes, mais quand même... Cette rareté-là là, de ressources à l'intérieur des organismes qui fait que pas, c'est difficile de se perdre aussi à travers toute cette structure-là québécoise là, qui est quand même spécifique à notre province, qui fait que les personnes immigrantes ne connaissent peut-être pas nécessairement toutes les sphères là, de la société québécoise. Fait que c'est un apprentissage, fait que ça, c'est un défi. La langue, la religion, autre défi... l'intégration, se créer un cercle d'amis. Même moi, je partirais pour aller rester à Montréal, puis on aurait de la difficulté à se créer un cercle. Là. Fait que cette difficulté-là de se créer un réseau, c'est pas facile.
Je suis revenu dans la région en 2006, ça faisait peut-être une vingtaine d'années que j'étais parti, puis je connaissais plus personne. Tout était à refaire, puis je suis natif d'ici, là, fait que je peux imaginer.
Puis Lorena pourrait peut-être nous dire ses propres défis.
C'est quoi,
ouais.
Là, c'est quoi qui a été le plus gros choc, les plus gros défis pour toi?
Bien, je pense que c'est tout le deuil et... Bien, vivre le monde migratoire.
Okay.
C'est des... Moi et la personnalité que j'ai construite au Mexique, c'était à refaire, à passer pour une analyse sur, après de faire l'immigration. Parce que quand tu viens à notre pays, tu perds tes repères, tu perds tout ton pouvoir, le pouvoir de connaître combien de temps ça me prend pour aller là-bas, comment je peux le faire. Puis... Donc, tu prends tout ça et tu commences à zéro. Donc, c'est de faire toute cette passe de qui j'étais au Mexique à qui je suis maintenant ici. Comment, c'est quoi que je veux garder de ma culture d'origine? C'est quoi que je veux adopter de la nouvelle culture qui vient ici?
Okay.
Donc, tu viens avec des lignes directrices que ta société te donne de c'est ça être une personne telle. Donc, tu viens, puis c'est différent. Donc,
tu ne sais pas vraiment. Tu le saches rapidement. En plus,
oui,
là.
C'est ça. C'est puis, ça. Avec une langue que tu ne parles pas, avec pas vraiment un réseau de soutien qui est là 24/7, là, comme mettons ma famille.
Ouais.
Donc, de voir aussi quel projet je voulais quand j'étais petite, quel projet ça fit quand je suis adulte, puis je vis dans ce pays-là. Et c'est tout ce deuil migratoire, ils disent que ça prend environ 5 ans à et vraiment comme garder, de venir encore dans le nord. Donc, c'est tout des petits deuils là que des fois s'ouvrent parce que tu peux heureusement retourner à ton pays d'accueil. Donc, c'est une autre fois que tu dois faire comme ce deuil de je dois partir encore. Puis, donc, juste ces deux percées, c'est vraiment une situation plus rough. Je le sens même plus dur que, par exemple, quand mon papa est décédé. Parce que je sais qu'il est décédé, puis OK, ça fait, là, c'est correct. Non? Ça fait la peine, mais ça passe. Mais ici, c'est comme tout le temps différentes choses, différents facteurs, différentes sphères que ça met un challenge, vraiment, de dire... Est-ce que je peux le faire encore? Ouais. Oui, OK, on continue, là, non?
Qu'est-ce qui te manque le plus? Est-ce que tu retournes au Mexique régulièrement?
Bien, ça fait, je pense qu'un mois que j'ai retourné au Mexique après 4 ans d'attente.
OK.
Donc, oui, je pense que c'est... Puis je vais partir tout le mois de juillet.
OK.
Donc, je pense que les choses qui me manquent le plus, c'est ma famille.
Oui.
Surtout, puis, ben, dans le fond, je dirais que juste ma famille, parce que j'ai su vraiment comment intégrer des choses de ma culture mexicaine ici, puis aussi de traditions, puis tout. Je crois que juste amener ma famille, là, c'est la coupe.
Et puis, inversement, quand t'es retourné au Mexique, tu dis, ah, ça me manque telle affaire à Normandin, ben, ou je m'ennuie de.
C'est ça que je suis en train de vivre, par exemple, pour partir tout juillet. Comme... Je pars tout juillet, je manque tout le festival, puis je manque, je ne serai pas dans mon jardin là, à voir comment ça pousse. Puis... Donc, oui, quand tu construis dans les deux côtés, ça donne que oui, le monde, ça fait plus petit, mais. Pareil, tu commences à t'ennuyer de les deux côtés.
Wow! C'est vraiment un beau témoignage, tout ça. Non, mais pour vrai, pour vrai. Puis l'hiver, moi, j'ai une question parce que j'ai l'impression que... Moi, ça me j'ai encore des chocs quand l'hiver arrive, là. Mais ça, est-ce que ton premier hiver, ça a dû être...
Ben non, honnêtement, non? Je sais pas si je continue encore dans ma lune de miel, là, mais l'hiver, ça...
Ça va.
Ça va, j'adorais ça. Les seules choses qui m'arrivaient, c'est cet hiver, là, à moins 50, là, je voulais, comme, je sais pas si ça se dit, là, mais je capotais ma vie. Ouais. Honnêtement, là, et...
Nous aussi. À cet point,
là, de que j'ai marché dans la rue 2 minutes pour arriver à la place, là, Puis j'ai commencé comme à être plus difficile de respirer. Puis j'étais comme... La prochaine fois que j'ai mis mon soude, j'ai senti comme une angoisse ici de... OK, je vais mourir, non, oui, OK, c'est correct, là, mais... Après ça, là, la neige, puis tout est bien correct. C'est le fun, en plus.
C'est-tu un enjeu, l'hiver, ou c'est moi qui tu sais, pour les immigrants qui viennent s'installer?
Mais je pense que chaque individu aussi, encore, c'est différent. Tu sais, il y en a qui vont trouver ça beau, il y en a qui vont trouver ça... qui vont trouver ça tannant parce que c'est un obstacle pour eux. Mais c'est sûr que c'est un obstacle juste pour la conduite hivernale, c'est un apprentissage. Des pneus d'hiver, il y a beaucoup de pays qui en ont pas besoin. Fait que ça, c'est un apprentissage, mais je pense que chaque individu va tout... T'sais, les gens qui sont très actifs, qui vont vouloir sortir dehors pour profiter d'activités hivernales vont aimer l'hiver. Ceux qui sont un petit peu plus casaniers à l'intérieur de leur petit cocon vont trouver que l'hiver est long ici au lac Saint-Jean.
Ben, comme
et je pense que chaque individu a une personnalité et a un intérêt. Il y en a qui préfèrent, il y en a qui ne sont pas capables d'endurer la chaleur.
J'aime pas
ça,
la chaleur.
Moi, j'adore la chaleur. C'est ça.
Je viens de Mexique.
Non, mais c'est vrai, j'ai des amis qui détestent l'hiver, puis je leur dis, ouais, mais qu'est-ce que tu fais l'hiver? Je fais rien, j'aime pas ça, mais si tu n'en profites pas, c'est sûr que c'est plus long à ce niveau-là. C'est un enjeu dont on a parlé beaucoup, là, mais je veux savoir si vous le vivez au quotidien, l'enjeu du racisme. Je ne sais pas si ça se nomme, là, les préjugés ou les appréhensions. On a parlé de religion, on a parlé de culture, etc. Est-ce que ça existe? Est-ce que si oui, tu sais, je ne sais pas trop comment aborder la question, c'est plutôt sensible, là, mais je pense qu'il faut l'affronter. Je pense qu'il faut en parler si on veut qu'il y en ait moins. Là.
Le lac Saint-Jean, on est une terre très accueillante, mais on n'est pas parfait. Je pense qu'on a avancé dans la société depuis depuis les dernières années. Je pense que la pénurie de main-d'œuvre a amené aussi cette ouverture-là. Les municipalités ont intégré aussi des politiques d'inclusion. On voit que le collectif s'implique davantage puisque on essaie de créer des alliés dans la société pour justement, comme Lorena le fait, pour qu'on puisse être encore plus accueillant parce que le parcours de Lorena, elle comprend quelque chose que nous, on ne comprendra peut-être jamais. On peut les écouter, on peut avoir beaucoup d'empathie, puis on peut essayer de les accompagner, tout ça, mais dans le parcours migratoire, ils ont une compréhension, puis quand tu l'as vécu ou quand tu vis un deuil, il y a une certaine empathie qui est créée, mais on est là pour les accompagner, les soutenir. Mais je pense qu'au niveau du racisme puis des préjugés, on a encore du chemin à faire, parce que nous, c'est sûr que les candidats, souvent, on est témoins, puis souvent, on est les premiers répondants, fait qu'on souvent, on est beaucoup à l'écoute. On n'est pas des intervenants en psychosocial. Fait que c'est sûr qu'on réfère beaucoup à des organismes. Il y a des droits, la Commission des droits de la personne qui sont outillés. Il y a la police aussi. Fait que c'est sûr que nous, on a des témoignages. C'est sûr qu'il y a des gens qui vivent de la discrimination, du racisme. Souvent, c'est par maladresse, mais en même temps, je ne veux pas l'atténuer parce qu'il y en a que c'est plus. Il n'y en a pas pur et dur. Il n'y a rien de violent, il n'y a rien de haineux. Tout est dans le verbal ou dans... Des fois, c'est même dans le non-verbal. Une femme peut changer de trottoir quand elle voit une personne noire arriver. Tu sais, ça... Fait que ça, systématiquement, la femme, elle a peur. Je le comprends, mais ça. Elle a un préjugé par rapport à la couleur de peau. C'est ça. Ou, il peut aussi avoir des préjugés positifs. Moi, j'ai déjà entendu dire une femme dire à une personne « Je pensais pas que ça allait être aussi propre chez vous. Tu sais, je m'imaginais que ça allait être sale. » Ça, c'est encore un préjugé ou un autre préjugé positif que j'ai déjà entendu. « Je pensais pas que tu allais être bon à l'école. » Des préjugés, des compliments, mais ça fait des maladresses, ça fait des petites blessures. Puis, des blessures, ça se guérit, là, mais ça reste toujours marqué. Fait que c'est important d'être vigilant. Puis des fois, on peut être maladroit, de s'excuser. Puis fait que c'est sûr. Puis tout le monde en a des préjugés. Là. Même moi, tout le monde en a des préjugés. Systématiquement, on va regarder quelqu'un puis on va systématiquement porter un préjugé. On va voir un homme habillé en tuxedo dans une voiture riche, puis on va penser qu'il est millionnaire. Fait que, systématiquement, on va porter un jugement systématiquement en voyant un individu. Fait que c'est sûr que l'objectif, c'est de défaire les préjugés.
Comment on fait ça? T'sais, parce que...
D'en être conscient.
D'en être conscient, puis de le nommer.
De le nommer. Excusez, je viens de faire un préjugé.
De nommer sa part.
De nommer, des fois, c'est parce qu'on est maladroit, puis on fait... ce que je viens de dire là, ça se dit pas. On a déjà entendu des mots comme Ah, c'est ça, c'est un étrange. Ouais. C'est des choses qui ne se disent pas, là. Tu sais, il y a des termes, la diversité culturelle, une personne immigrante, mais une personne noire. Tu sais, il y a des choses qu'il faut qu'on le dise. Mais c'est ça, des mots qui sont.
C'est de vouloir aussi comprendre, tu sais. Ouais. Moi, j'ai un ami, un bon ami algérien qui est musulman. Puis moi, après le 11 septembre, j'étais comme tout le monde, là. J'avais peur parce que je ne comprenais pas. Puis je me suis assis 2 heures avec juste pour qu'il me parle de sa religion. Aujourd'hui, je peux te dire que ça me fait pas peur. Tu sais, dans le sens où ça me permet de comprendre, mais je pense qu'il faut aussi le désir de vouloir comprendre la réalité de l'autre. Est-ce que tu sens que les gens vont vers toi te poser des questions qui sont ouvertes à ta culture et à tes origines?
Oui. Puis sinon, la chose que moi je pourrais dire, c'est comme reviens, je mélange mon espagnol et le français. Je vais dire un petit peu sur ça ou tout ça. Là. Donc, de non plus te gêner de faire les questions, le pourquoi tu fais ça, comment c'est, ouais. De où ça se vient. Et je pense que ça vient beaucoup de l'ignorance et le manque d'information. Donc, si tu peux te sentir à l'aise de dire excuse-moi là, avec tout, comment tu le fais, c'est quoi que tu veux dire, c'est quoi que tu fais. Là? Donc, dans le fond, dans mon travail, je sais comment ça se vit, comment ça se passe, c'est quoi qui sens vraiment. Et,
peut-être dire, c'est quoi ton bain préféré, ta couleur, ouais, qu'est-ce que tu fais comme activité l'été? D'aller dans des questions banales, puis souvent, c'est parce qu'on... Tu sais, est-ce que tu vis du racisme? T'sais, c'est des questions qui sont quand même lourdes. Tu sais, des fois, c'est important d'en parler, c'est comme un peu de la politique, mais tu sais, je pense que c'est important d'apprendre à connaître l'autre et non
de connaître son parcours. Moi, je suis quelqu'un de curieux dans la vie, et chaque fois qu'il y a quelqu'un qui vient de l'étranger, parce que ça m'intéresse, je pose toujours la question, comme je me suis fait dire, est-ce que tu réalises que chaque fois que tu fais ça, tu mets le doigt sur le fait que tu identifies que la personne est différente. Là, je suis venu mal à l'aise, mais je sais que mon intention n'a jamais été, tu sais, c'était plus de la curiosité, mais c'est d'apprendre ça, en fait, là. Mm-hmm. D'être capable de c'est vraiment intéressant. parlons maintenant de Porte ouverte sur le lac, parce que vous êtes là, vous avez une mission qui est d'accompagner les jeunes fois qu'ils sont sur le territoire. Comment vous faites ça? C'est quoi les services que vous nous offrez? Ben, vous, pas à moi, mais à l'ensemble de la population.
Bien, dans le fond, c'est un service individualisé aux personnes immigrantes, mais à tous les nouveaux arrivants qui viennent sur le territoire. Puis on va les accompagner dans leurs besoins. Puis ça va être spécifique à chaque individu. Chaque individu a des besoins différents. Soit qu'il va vouloir avoir un emploi, soit qu'il va vouloir... des fois, les démarches toutes administratives, des fois, la firme de recrutement va avoir fait le NAS. Là. Fait que souvent, des fois, ils ont juste besoin de rentrer dans la banque pour les activités. On les invite à nos activités réseautage. Puis les activités, on a une banque de candidats, mais nos activités d'intégration sont ouvertes à tous. Là. Depuis, on a une entente avec les 3 MRC. Fait que citoyens ou peu importe, là, quelqu'un que ça fait 10 ans qui est sur le territoire, qui voudrait participer à toutes nos activités, c'est offert gratuitement. Okay. Puis ils ont juste à s'inscrire avec nos publications sur la page Facebook ou à nous envoyer un petit courriel ou à se présenter. On ne refuse jamais personne. Puis c'est ça. Fait que c'est gratuit autant pour la population en général. Ce qu'on veut faire, c'est un rapprochement interculturel. Puis on veut rapprocher les gens pour créer des liens significatifs.
Une question qui va paraître peut-être étrange, mais juste moi, je n'ai pas de fil. Moi, je viens de la Beauce. Je veux m'en venir au lac Saint-Jean. Est-ce que vous pouvez m'aider? Oui, OK. C'est des services vraiment pour quelqu'un qui vient s'installer au lac Saint-Jean.
Oui, mais il y a le programme aussi, il y a le programme Place aux jeunes, dans le fond, qui est axé sur les 18-35 ans, les jeunes diplômés. Mais au niveau du 35 et plus, ben là, on va se référer plus avec la MRC. Ils ont quand même des structures en place. Mais s'ils veulent s'intégrer à nos activités d'intégration, c'est sûr que quelqu'un qui veut de la Beauce et qui a besoin d'un logement, ben on peut lui donner des petites pistes de référence, là, mais présentement, tout le monde, il n'y a pas de logement pour personne. Fait qu'on ne peut pas non plus en inventer là, cette solution-là. C'est problématique.
Oui, c'est clair. Et vous devez aussi faire de l'accompagnement pour les entreprises ou pour les employeurs, ou je me trompe?
Non, ben, ce qu'on fait, c'est la liaison aux entreprises.
Okay, si vous faites les liens.
Oui, on fait les liens. Fait que si une entreprise va recevoir une arrivée d'individus qui arrivent sous peu, ben, il peut nous adresser des demandes. Là, est-ce que c'est possible de venir à l'arrivée pour... dès qu'ils arrivent sur le territoire, là, dans le fond, s'ils arrivent soit à Robertval ou à Normandin, puis on peut faire une journée d'accueil avec eux là, pour épicerie, pharmacie, les besoins essentiels. Auparavant, il y a 10 ans, on faisait un tour de ville, il y avait à peu près 60 personnes par année. Fait qu'on faisait un tour de ville, puis c'était un service beaucoup plus personnalisé dans chacun des territoires. Mais là, avec l'augmentation, on demande vraiment l'apport des municipalités de s'impliquer dans cette démarche-là. Fait qu'on a du référencement là, qui est fait avec les MRC pour que le milieu puisse aussi embarquer. On voit Saint-Thomas-Didyme a été lauréat du prix Ulrich Chérubin. Puis on voit encore plus, là, on voit la ville Saguenay, ils sont en train de créer vraiment des belles activités d'intégration. La ville de Saint-Félicien, là, le Vivre Ensemble là, le 22 juillet. Fait que, tu sais, on voit qu'il y a une mobilisation aussi.
Les communautés, ils répondent présents.
C'est là. Ça. Ben, ouais. On a crié. Ben, tu sais, dans le fond, on n'a pas crié, mais tu sais, ils voient qu'on est débordé. Puis. Que, tu sais, il faut en
ils ont faire, besoin de vos services, ils ont besoin, oui, c'est ça. Fait qu'ils peuvent participer.
Oui, je pense que la ville de Normandin aussi, ils peuvent offrir de venir rencontrer à la mairie pour présenter soit les services des loisirs. Si je me trompe, un petit tour de ville aussi pour aller voir les différents attraits touristiques. Là. Ouais. Fait que, mais les individus qui arrivent sur le territoire, on leur demande toujours si ils veulent qu'on partage leur courriel. Puis s'ils veulent, ben, on transmet au MRC qu'eux communiquent avec les municipalités.
Lorena, pour, mettons, les employeurs, les municipalités, peu importe les gens qui nous écoutent, on entend souvent dire, ouais, c'est correct, là, on veut des immigrants, mais on veut qu'ils s'intègrent. T'sais, je ne sais pas, c'est comme de la magie. Là. Mm-hmm. C'est quoi pour toi les pistes pour réussir ça? Qu'est-ce qui nous permet, mais collectivement, pas juste pour les gens qui arrivent de l'étranger, mais aussi pour la communauté, pour créer des liens, justement. Là, c'est quoi le secret ou ce serait quoi pour toi les meilleures avenues?
Je pense que. Pour commencer, c'est de nous rappeler qu'un travailleur immigrant est plus qu'un travailleur, c'est une personne qui vient avec des rêves, des projets, des choses à vivre. Donc, pour favoriser l'inclusion, là, ça peut commencer juste de un bonjour, ou allô, ou hola. Quelque chose de même, ça peut comme donner pied à, et surtout aussi adapter les services ou avoir comme l'ouverture d'esprit que ça perde dans toutes tes actions. Donc, ça peut favoriser ça. Parce que entre plus de vulnérabilité qu'une personne vit, dans peu importe quel procès, là, si ce n'est pas immigration, non, plus que vulnérabilité qu'une personne vit, plus de probabilité de développer un processus traumatique.
Ouais,
donc, juste de montrer l'empathie, de montrer le désir d'assister à des activités d'intégration, des activités multiculturelles, juste de montrer ce désir de « je suis là », non?
Vous donc, considérer comme des citoyens, comme n'importe qui, puis faire un cas de dire « ah, c'est… Ouais. » un immigrant.
Oui, c'est ça. T'es une personne pareille que moi, puis on va prendre l'un de l'autre, puis...
T'es un citoyen.
Oui, c'est ça.
Individu apparentant.
Oh, wow. Julie, où face aux problématiques que vous devez avoir, là, que ce soit le financement ou la personne pour la main-d'œuvre chez vous, si tu n'avais pas ces problématiques-là, ce serait quoi les projets que tu aimerais mettre de l'avant pour nous aider, nous, collectivement, là, à ce que ça fonctionne encore davantage l'immigration en région?
Bien, favoriser un rapprochement interculturel, là, le jumelage, là, dès l'arrivée, les trois premiers mois, je pense que c'est une bonne solution là, pour aider le mariage.
Le jumelage, c'est que vous jumelez une personne immigrante avec quelqu'un de la communauté.
Oui, un nouvel arrivant avec un résident de longue date. Ça peut être une personne issue de l'immigration qui est sur le territoire depuis 5 ans, mais qui connaît un peu le parcours migratoire puis les enjeux. Fait qu'on... moi, je pense qu'on mettrait beaucoup plus d'énergie dans encore plus, là, si on aurait beaucoup de ressources, là, puis beaucoup de personnes qui voudraient, là, je pense que ça donnerait vraiment, là, une belle réussite, là, dans l'intégration, le programme jumelage. C'est sûr qu'on, si on n'aurait pas le financement puis les ressources, ben d'aider aussi en entreprise, d'amener vraiment, là, une vision interculturelle, puis... une ouverture d'esprit, mais là, c'est quand même assez difficile, c'est pour rêver. Là. C'est quand même assez difficile parce que les entreprises souvent sont privées, ils ont leur petit cocon. Fait que, tu sais, d'essayer de tout travailler ensemble, tout ce beau monde-là, là, si on aurait tout le collectif, les entreprises, le milieu, les municipalités, puis on n'aurait pas non plus l'enjeu du transport. T'sais, on a un magnifique lac Saint-Jean, là, mais c'est on a 35 municipalités, 3 MRC. C'est grand à couvrir pour un organisme. On a 3 bureaux administratifs. Moi, d'avoir une maison tout intégrée avec toutes les ressources qui volent, je ne sais pas. Là, puis aussi pour notre structure au niveau de la gestion de notre équipe, là, c'est pas facile parce que c'est ça, on est divisé en, en trois secteurs différents. Fait que les ressources sont multipliées par trois. Les activités sont multipliées par trois. Même si on voudrait être dans toutes les municipalités, on peut pas. On voudrait faire une fête à Normandin, à La Dorée, à Saint-Prime. On peut pas. Fait que c'est sûr que rêver, ça serait qu'on mette toute cette belle concertation-là puis qu'on fasse de cette terre... un endroit inclusif et bon vivre.
Si je suis en train d'écouter l'émission, là, puis je fais « Hey, mais moi, j'aimerais ça faire du jumelage. Est-ce qu'on peut vous appeler? Est-ce que vous prenez des noms? » C'est ça?
Oui.
Ah, ben oui,
allez
là,
sur notre site Internet. Allez sur notre site Internet ou sinon, vous pouvez dans, nous joindre. Mais sinon, il y a quand même des formulaires pour s'inscrire. Le petit formulaire met un petit peu en bain, là, c'est quoi vos intérêts, c'est quoi, autant pour notre clientèle que les candidats que pour les Jeannois de longue date. Ouais. Fait que, dans le fond, il y a comme vraiment un petit sondage là, pour essayer de déceler un petit peu c'est quoi les intérêts, c'est quoi les passions pour créer un mariage harmonieux. Wow.
C'est noté, c'est noté. Lorena, le mot de la fin, je veux te le laisser. Et non, mais grâce à la magie d'Internet, cette émission-là va même pouvoir être vue au Mexique. Donc, j'aimerais que tu parles, je ne sais pas si tu acceptes, là, mais de parler aux gens du Mexique qui nous écoutent en ce moment en espagnol pour leur dire, pour leur parler, comme décris-leur donc. Là, mais j'aime ça, moi, entendre des lèvres. Est-ce que, comment tu décrirais en espagnol le Saguenay-Lac-Saint-Jean, ta terre d'accueil?
Saguenay-Lac-Saint-Jean o el lago San Juan es un lugar fértil en donde puedes venir a hacer todos tus proyectos, en donde vas a encontrar una tierra de ayuda mutua, una tierra de empatía, de sensibilidad, de contacto con la naturaleza, de seguridad. Un lugar en donde puedes de verdad encontrar tu máximo potencial y desarrollarlo para poder lograr una calidad de vida y poder dar a tu entorno mucho más.
J'ai rien compris, mais ça me semblait très positif sur la région. Merci beaucoup, Lorena Ledesma, immigrante, et je rappelle que tu es intervenante au centre Plein Vie à Normandin. Bravo, merci. Continue merci. De parler et de nous éduquer sur les autres, sur le monde, en fait, là, et de rendre notre monde plus inclusif. Et merci aussi à Julie Gauthier, directrice générale de Porte Ouverte sur le Lac. Vous êtes important, on a besoin de vous. Lâchez pas, on vous aime. Merci aussi à vous, oui, je vous aime aussi, à vous. Et nous, on peut se dire à la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Échangeurs Turcotte. Bonne semaine.